Il y a quelque chose de bien singulier dans la situation de monsieur le comte Ferraud, se dit Derville en sortant de sa longue rêverie, au moment où son cabriolet s'arrêtait rue de Varennes à la porte de l'hôtel Ferraud. Comment lui, si riche, aimé du roi, n'est-il pas encore pair de France? Il est vrai qu'il entre peut-être dans la politique du roi, comme me le disait madame de Grandlieu, de donner une haute importance à la pairie en ne la prodiguant pas. D'ailleurs, le fils d'un conseiller au Parlement n'est ni un Crillon ni un Rohan. Le comte Ferraud ne peut entrer que subrepticement dans la chambre haute. Mais si son mariage était cassé, ne pourrait-il faire passer sur sa tête, à la grande satisfaction du roi, la pairie d'un de ces vieux sénateurs qui n'ont que des filles? Voilà certes une bonne bourde à mettre en avant pour effrayer notre comtesse, se dit-il en montant le perron. Derville avait, sans le savoir, mis le doigt sur la plaie secrète, enfoncé la main dans le cancer qui dévorait madame Ferraud. Il fut reçu par elle dans une jolie salle à manger d'hiver, où elle déjeunait en jouant avec un singe attaché par une chaîne à une espèce de petit poteau garni de bâtons en fer. La comtesse était enveloppée dans un élégant peignoir, les boucles de ses cheveux, négligemment rattachées, s'échappaient d'un bonnet qui lui donnait un air mutin. Elle était fraîche et rieuse, l'argent, le vermeil, la nacre étincelaient sur la table, et il y avait autour d'elle des fleurs curieuses plantées dans de magnifiques vases en porcelaine. En voyant la femme du comte Chabert, riche de ses dépouilles, au sein du luxe, au fait de la société, tandis que le malheureux vivait chez un pauvre nourrisseur au milieu des bestiaux, l'avoué se dit « La morale de ceci est qu'une jolie femme ne voudra jamais reconnaître son mari, ni même son amant, dans un homme en vieux carrick, en perruque de chien-dent et en bottes percées. » Un sourire malicieux et mordant exprima les idées moitié philosophiques, moitié railleuses, qui devaient venir à un homme si bien placé pour connaître le fond des choses, malgré les mensonges sous lesquels la plupart des familles parisiennes cachent leur existence. « Bonjour, monsieur Derville, » dit-elle en continuant à faire prendre du café au singe. « Madame, » dit-il brusquement, car il se choqua du ton léger avec lequel la comtesse lui avait dit « Bonjour, monsieur Derville, je viens causer avec vous d'une affaire assez grave. »« J'en suis désespérée, monsieur le comte est absent. »« J'en suis enchantée, moi, madame. » Il serait désespérant qu'il assistât à notre conférence. Je sais d'ailleurs, par Delbecq, que vous aimez à faire vos affaires vous-même sans en ennuyer monsieur le comte. Alors je vais faire appeler Delbecq, dit-elle. Il vous serait inutile, malgré son habileté, reprit Derville. Écoutez, madame, un mot suffira pour vous rendre sérieuse. Le comte Chabert existe. Est-ce en disant de semblables bouffonneries que vous voulez me rendre sérieuse ? Dit-elle en partant d'un éclat de rire. Mais la comtesse fut tout à coup domptée par l'étrange lucidité du regard fixe par lequel Derville l'interrogeait en paraissant lire au fond de son âme. Madame, répondit-il avec une gravité froide et perçante, vous ignorez l'étendue des dangers qui vous menacent. Je ne vous parlerai pas de l'incontestable authenticité des pièces, ni de la certitude des preuves qui attestent l'existence du comte Chabert. Je ne suis pas homme à me charger d'une mauvaise cause, vous le savez. Si vous vous opposez à notre inscription en faux contre l'acte de décès, vous perdrez ce premier procès, et cette question résolue en notre faveur nous fait gagner toutes les autres. De quoi prétendez-vous donc me parler ? Ni du colonel, ni de vous. Je ne vous parlerai pas non plus des mémoires que pourraient faire des avocats spirituels, armée des faits curieux de cette cause et du parti qu'il tirerait des lettres que vous avez reçues de votre premier mari avant la célébration de votre mariage avec votre second. « Cela est faux, » dit-elle avec toute la violence d'une petite maîtresse. « Je n'ai jamais reçu de lettres du comte Chabert, et si quelqu'un se dit être le colonel, ce ne peut être qu'un intrigant, quelque forçat libéré, comme Coignard peut-être. Le frisson prend rien que d'y penser. Le colonel peut-il ressusciter, monsieur ? Bonaparte m'a fait complimenter sur sa mort par un aide de camp et je touche encore aujourd'hui 3 000 francs de pension accordés à sa veuve par les chambres. J'ai eu 1 000 fois raison de repousser tous les Chabert qui sont venus, comme je repousserai tous ceux qui viendront. Heureusement, nous sommes seuls, madame. Nous pouvons mentir à notre aise, dit-il froidement en s'amusant à aiguillonner la colère qui agitait la comtesse afin de lui arracher quelques indiscrétions par une manœuvre familière aux avoués, habitués à rester calmes quand leurs adversaires ou leurs clients s'emportent. « Eh bien donc, à nous deux !» se dit-il en lui-même, en imaginant à l'instant un piège pour lui démontrer sa faiblesse. « La preuve de la remise de la première lettre existe, madame, » reprit-il à haute voix. « Elle contenait des valeurs. »« Oh, pour des valeurs, elle n'en contenait pas !»« Vous avez donc reçu cette première lettre ?» reprit Derville en souriant. « Vous êtes déjà prise dans le premier piège que vous tente un avoué, et vous croyez pouvoir lutter avec la justice. » La comtesse rougit, pâlit, se cacha la figure dans les mains. Puis elle secoua sa honte et reprit avec le sang-froid naturel à ces sortes de femmes. « Puisque vous êtes l'avoué du prétendu Chabert, faites-moi le plaisir de... »« Madame, » dit Derville en l'interrompant, « je suis encore en ce moment votre avoué comme celui du colonel. » Croyez-vous que je veuille perdre une clientèle aussi précieuse que l'est la vôtre? Mais vous ne m'écoutez pas. « Parlez, monsieur, » dit-elle gracieusement. « Votre fortune vous venait de monsieur le comte Chabert et vous l'avez repoussée. Votre fortune est colossale et vous le laissez mendier. Madame, les avocats sont bien éloquents lorsque les causes sont éloquentes par elles-mêmes. Il se rencontre ici des circonstances capables de soulever contre vous l'opinion publique. » « Mais, monsieur, » dit la comtesse, impatientée de la manière dont Derville la tournait et retournait sur le grill, « en admettant que votre monsieur Chabert existe, les tribunaux maintiendront mon second mariage à cause des enfants, et j'en serai quitte pour rendre 225 000 francs à monsieur Chabert. » « Madame, nous ne savons pas de quel côté les tribunaux verront la question sentimentale. Si d'une part nous avons une mère et ses enfants, nous avons de l'autre un homme accablé de malheur, vieilli par vous, par vos refus. Où trouverait-il une femme? Puis, les juges peuvent-ils heurter la loi? Votre mariage avec le colonel a pour lui le droit, la priorité. Mais si vous êtes représenté sous d'odieuses couleurs, vous pourriez avoir un adversaire auquel vous ne vous attendez pas. Là, madame, est ce danger dont je voudrais vous préserver. « Un nouvel adversaire ? » dit-elle. « Qui ?» « Monsieur le comte Ferraud, madame. » Monsieur Ferraud a pour moi un trop vif attachement et pour la mère de ses enfants un trop grand respect. « Ne parlez pas de ces niaiseries-là, » dit Derville en l'interrompant, à des avoués habitués à lire au fond des cœurs. « En ce moment, monsieur Ferraud n'a pas la moindre envie de rompre votre mariage et je suis persuadée qu'il vous adore. Mais si quelqu'un venait lui dire que son mariage peut être annulé, que sa femme sera traduite en criminelle au banc de l'opinion publique. Il me défendrait, monsieur. Non, madame. Quelle raison aurait-il de m'abandonner, monsieur? Mais celle d'épouser la fille unique d'un pair de France, dont la pairie lui serait transmise par ordonnance du roi. » La comtesse pâlit. « Nous y sommes, » se dit en lui-même Derville. « Bien, je te tiens, l'affaire du pauvre colonel est gagnée. » « D'ailleurs, madame, » reprit-il à haute voix, « il aurait d'autant moins de remords qu'un homme couvert de gloire, général, comte, grand officier de la Légion d'honneur, ne serait pas un pis-aller. Et si cet homme lui redemande sa femme ?»« Assez, assez, monsieur, » dit-elle. « Je n'aurai jamais que vous pour avouer. Que faire ?»« Transiger, » dit Derville. « M'aime-t-il encore ?» dit-elle. « Mais je ne crois pas qu'il puisse en être autrement. » À ce moment, la comtesse dressa la tête. Un éclair d'espérance brilla dans ses yeux. Elle comptait peut-être spéculer sur la tendresse de son premier mari pour gagner son procès par quelque ruse de femme. « J'attendrai vos ordres, madame, pour savoir s'il faut vous signifier nos actes ou si vous voulez venir chez moi pour arrêter les bases d'une transaction, » dit Derville en saluant la comtesse. 8 jours après les 2 visites que Derville avait faites, et par une belle matinée du mois de juin, les époux, désunis par un hasard presque surnaturel, partirent des 2 points les plus opposés de Paris pour venir se rencontrer dans l'étude de leur avoué commun. Les avances qui furent largement faites par Derville au colonel Chabert lui avaient permis d'être vêtu selon son rang. Le défunt arriva donc voituré dans un cabriolet fort propre. Il avait la tête couverte d'une perruque appropriée à sa physionomie, il était habillé de drap bleu, avait du linge blanc, et portait sous son gilet le sautoir rouge des grands officiers de la Légion d'honneur. En reprenant les habitudes de l'aisance, il avait retrouvé son ancienne élégance martiale. Il se tenait droit. Sa figure, grave et mystérieuse, où se peignaient le bonheur et toutes ses espérances, paraissait être rajeunie et plus grasse, pour emprunter à la peinture une de ses expressions les plus pittoresques. Il ne ressemblait pas plus au Chabert en vieux carrick qu'un gros sou ne ressemble à une pièce de 40 francs nouvellement frappée. À le voir, les passants eussent facilement reconnu en lui l'un de ces beaux débris de notre ancienne armée, un de ces hommes héroïques sur lesquels se reflète notre gloire nationale, et qui la représente comme un éclat de glace illuminé par le soleil semble en réfléchir tous les rayons. Ces vieux soldats sont tout ensemble des tableaux et des livres. Quand le comte descendit de sa voiture pour monter chez Derville, il sauta légèrement comme aurait pu faire un jeune homme. À peine son cabriolet avait-il retourné qu'un joli coupé tout armorié arriva. Madame la comtesse Féraud en sortit dans une toilette simple, mais habilement calculée pour montrer la jeunesse de sa taille. Elle avait une jolie capote doublée de rose qui encadrait parfaitement sa figure, en dissimulait les contours et la ravivait. Si les clients s'étaient rajeunis, l'étude était restée semblable à elle-même et offrait alors le tableau par la description duquel cette histoire a commencé. Simonin déjeunait, l'épaule appuyée sur la fenêtre qui alors était ouverte. Et il regardait le bleu du ciel par l'ouverture de cette cour entourée de 4 corps de logis noirs. « Ah ! S'écria le petit clerc, qui veut parier un spectacle que le colonel Chabert est général et cordon rouge ?»« Le patron est un fameux sorcier, » dit Godeschal. « Il n'y a donc pas de tour à lui jouer cette fois ?» demanda Desroches. « C'est sa femme qui s'en charge, la comtesse Féraud, » dit Boucard. « Allons, » dit Godeschal, « la comtesse Féraud serait donc obligée d'être à deux. »« La voilà, » dit Simonin. En ce moment, le colonel entra et demanda Derville. « Il y est, monsieur le comte, » répondit Simonin. « Tu n'es donc pas sourd, petit drôle ?» dit Chabert en prenant le saute-ruisseau par l'oreille et en la lui tortillant à la satisfaction des clercs qui se mirent à rire et regardèrent le colonel avec la curieuse considération due à ce singulier personnage. Le comte Chabert était chez Derville au moment où sa femme entra par la porte de l'étude. « Dites donc, Boucard, il va se passer une singulière scène dans le cabinet du patron. Voilà une femme qui peut aller les jours pairs chez le comte Féraud et les jours impairs chez le comte Chabert. Dans les années bissextiles, dit Godeschal, le comte y sera. Taisez-vous donc, messieurs, l'on peut entendre, dit sévèrement Boucard. Je n'ai jamais vu d'étude où l'on plaisanta comme vous le faites sur les clients. Derville avait consigné le colonel dans la chambre à coucher quand la comtesse se présenta. Madame, lui dit-il, ne sachant pas s'il vous serait agréable de voir monsieur le comte Chabert, je vous ai séparé, si cependant vous désiriez. Monsieur, c'est une attention dont je vous remercie. J'ai préparé la minute d'un acte dont les conditions pourront être discutées par vous et monsieur Chabert séance tenante. J'irai alternativement de vous à lui pour vous présenter, à l'un et à l'autre, vos raisons respectives. Voyons, monsieur, dit la comtesse en laissant échapper un geste d'impatience. Derville lut. Entre les sous-signés, M. Hyacinthe, dit Chabert, comte, maréchal de camp et grand officier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue du Petit Banquier d'une part, et la dame Rose Chapotel, épouse de M. le comte Chabert, ci-dessus nommée, née. Passez, dit-elle, laissons les préambules, arrivons aux conditions. Madame, dit l'avoué, le préambule explique succinctement la position dans laquelle vous vous trouvez l'un et l'autre. Puis, par l'article premier, vous reconnaissez, en présence de 3 témoins, qui sont 2 notaires et le nourrisseur chez lequel a demeuré votre mari, auquel j'ai confié sous le secret votre affaire et qui garderont le plus profond silence, vous reconnaissez, dis-je, que l'individu désigné dans les actes joints ou sous-saints, mais dont l'état se trouve d'ailleurs établi par un acte de notoriété préparé chez Alexandre Crottat, votre notaire, et le comte Chabert, votre premier époux. Par l'article second, le comte Chabert, dans l'intérêt de votre bonheur, s'engage à ne faire usage de ses droits que dans les cas prévus par l'acte lui-même. Et ces cas, dit Derville en faisant une sorte de parenthèse, ne sont autres que la non-exécution des clauses de cette convention secrète. De son côté, reprit-il, M. Chabert consent à poursuivre de gré avec vous un jugement qui annulera son acte de décès et prononcera la dissolution de son mariage. « Ça ne me convient pas du tout, » dit la comtesse étonnée. « Je ne veux pas de procès, vous savez pourquoi. » « Par l'article 3, » dit l'avoué en continuant avec un flegme imperturbable, « vous vous engagez à constituer au nom d'Hyacinthe, comte Chabert, une rente viagère de 24 000 francs inscrite sur le grand livre de la dette publique, mais dont le capital vous sera dévolu à sa mort. »« Mais c'est beaucoup trop cher, » dit la comtesse. « Pouvez-vous transiger à meilleur marché ?»« Peut-être. » « Que voulez-vous donc, madame ? Je ne veux pas de procès, je veux... »« Qu'il reste mort, » dit vivement Derville en l'interrompant. « Monsieur, » dit la comtesse, « s'il faut 24 000 livres de rente, nous plaiderons. »« Oui, nous plaiderons, » s'écria d'une voix sourde le colonel qui ouvrit la porte et apparut tout à coup devant sa femme en tenant une main dans son gilet et l'autre étendue vers le parquet, geste auquel le souvenir de son aventure donnait une horrible énergie. « C'est lui, » se dit en elle-même la comtesse. « Trop cher, » reprit le vieux soldat. « Je vous ai donné près d'un million et vous marchandez mon malheur. Eh bien, je vous veux maintenant, vous et votre fortune. Nous sommes communs en bien, notre mariage n'a pas cessé. »« Mais monsieur n'est pas le colonel Chabert ! » s'écria la comtesse en feignant la surprise. « Ah !» dit le vieillard d'un ton profondément ironique. « Voulez-vous des preuves ? Je vous ai prise au palais royal. » La comtesse pâlit. En la voyant pâlir sous son rouge, le vieux soldat, touché de la vive souffrance qu'il imposait à une femme jadis aimée avec ardeur, s'arrêta. Mais il en reçut un regard si venimeux qu'il reprit tout à coup « Vous étiez chez la... »« De grâce, monsieur, » dit la comtesse à l'avoué, « trouvez bon que je quitte la place. Je ne suis pas venue ici pour entendre de semblables horreurs. » Elle se leva et sortit. Derville s'élança dans l'étude. La comtesse avait trouvé des ailes et s'était comme envolée. En revenant dans son cabinet, l'avoué trouva le colonel dans un violent accès de rage et se promenant à grands pas. « Dans ce temps-là, chacun prenait sa femme où il voulait, disait-il. Mais j'ai eu tort de la mal choisir, de me fier à des apparences, elle n'a pas de cœur. » « Eh bien, colonel, n'avais-je pas raison en vous priant de ne pas venir ? Je suis maintenant certain de votre identité. » Quand vous vous êtes montré, la comtesse a fait un mouvement dont la pensée n'était pas équivoque. Mais vous avez perdu votre procès, votre femme sait que vous êtes méconnaissable. Je la tuerai. Folie ! Vous serez pris et guillotiné comme un misérable. D'ailleurs, peut-être manquerez-vous votre coup. Ce serait impardonnable, on ne doit jamais manquer sa femme quand on veut la tuer. Laissez-moi réparer vos sottises, grand enfant. Allez-vous-en. Prenez garde à vous, elle serait capable de vous faire tomber dans quelque piège et de vous enfermer à Charenton. Je vais lui signifier nos actes afin de vous garantir de toute surprise. » Le pauvre colonel obéit à son jeune bienfaiteur et sortit en lui balbutiant des excuses. Il descendait lentement les marches de l'escalier noir, perdu dans des sombres pensées, accablé peut-être par le coup qu'il venait de recevoir, pour lui le plus cruel, le plus profondément enfoncé dans son cœur. Lorsqu'il entendit, en parvenant au dernier palier, le frôlement d'une robe et sa femme apparut. « Venez, monsieur, » lui dit-elle en lui prenant le bras par un mouvement semblable à ceux qui lui étaient familiers autrefois. L'action de la comtesse, l'accent de sa voix redevenue gracieuse, suffirent pour calmer la colère du colonel qui se laissa mener jusqu'à la voiture. « Eh bien, montez donc !» lui dit la comtesse quand le valet eut achevé de déplier le marchepied. Et il se trouva, comme par enchantement, assis près de sa femme dans le coupé. « Où va madame ?» demanda le valet. « À Groslay, » dit-elle. Les chevaux partirent et traversèrent tout Paris. « Monsieur, » dit la comtesse au colonel d'un son de voix qui révélait une de ces émotions rares dans la vie et par lesquelles tout en nous est agité. En ces moments, cœur, fibres, nerfs, physionomie, âme et corps, tout, chaque pore même tressaille. La vie semble ne plus être en nous. Elle en sort et jaillit, elle se communique comme une contagion, se transmet par le regard, par l'accent de la voix, par le geste, en imposant notre vouloir aux autres. Le vieux soldat tressaillit en entendant ce seul mot, ce premier, ce terrible « monsieur ». Mais aussi était-ce tout à la fois un reproche, une prière, un pardon, une espérance, un désespoir, une interrogation, une réponse. Ce mot comprenait tout. Il fallait être comédienne pour jeter tant d'éloquence, tant de sentiments dans un mot. Le vrai n'est pas si complet dans son expression, il ne met pas tout en dehors, il laisse voir tout ce qui est au-dedans. Le colonel eut mille remords de ses soupçons, de ses demandes, de sa colère, et baissa les yeux pour ne pas laisser deviner son trouble. « Monsieur, reprit la comtesse après une pause imperceptible, je vous ai bien reconnu. » « Rosine, dit le vieux soldat, ce mot contient le seul baume qui fit me faire oublier mes malheurs. » Deux grosses larmes roulèrent toutes chaudes sur les mains de sa femme, qu'il pressa pour exprimer une tendresse paternelle. « Monsieur, reprit-elle, comment n'avez-vous pas deviné qu'il me coûtait horriblement de paraître devant un étranger dans une position aussi fausse que l'est la mienne? Si j'ai à rougir de ma situation, que ce ne soit au moins qu'en famille. Ce secret ne devait-il pas rester enseveli dans nos cœurs? Vous m'absoudrez, j'espère, de mon indifférence apparente pour les malheurs d'un Chabert à l'existence duquel je ne devais pas croire. J'ai reçu vos lettres, dit-elle vivement, en lisant sur les traits de son mari l'objection qui s'y exprimait. Mais elles me parvinrent 13 mois après la bataille d'Eylau. Elles étaient ouvertes, salies, l'écriture en était méconnaissable, et j'ai dû croire, après avoir obtenu la signature de Napoléon sur mon nouveau contrat de mariage, qu'un adroit intrigant voulait se jouer de moi. Pour ne pas troubler le repos de Monsieur le comte Ferraud et ne pas altérer les liens de la famille, j'ai donc dû prendre des précautions contre un faux Chabert. N'avais-je pas raison, dites ? Oui, tu as eu raison, c'est moi qui suis un sot, un animal, une bête, de n'avoir pas su mieux calculer les conséquences d'une situation semblable. Mais où allons-nous ? Dit le colonel en se voyant à la barrière de la chapelle. « À ma campagne, près de Groslay, dans la vallée de Montmorency. Là, monsieur, nous réfléchirons ensemble au parti que nous devons prendre. Je connais mes devoirs. Si je suis à vous en droit, je ne vous appartiens plus en fait. Pouvez-vous désirer que nous devenions la fable de tout Paris? N'instruisons pas le public de cette situation qui, pour moi, présente un côté ridicule, et sachons garder notre dignité. Vous m'aimez encore, reprit-elle en jetant sur le colonel un regard triste et doux. Mais moi, n'ai-je pas été autorisée à former d'autres liens? En cette singulière position, une voix secrète me dit d'espérer en votre bonté qui m'est si connue. Aurais-je donc tort en vous prenant pour seul et unique arbitre de mon sort? Soyez juge et parti. Je me confie à la noblesse de votre caractère. Vous aurez la générosité de me pardonner les résultats de fautes innocentes. Je l'avouerai donc, j'aime Monsieur Ferraud. Je me suis cru en droit de l'aimer. Je ne rougis pas de cet aveu devant vous. S'il vous offense, il ne vous déshonore point. Je ne puis vous cacher les faits. Quand le hasard m'a laissée veuve, je n'étais pas mère. » Le colonel fit un signe de main à sa femme pour lui imposer silence, et ils restèrent sans proférer un seul mot pendant une demi-lieue. Chabert croyait voir les deux petits-enfants devant lui. « Rosine, monsieur ?» Les morts ont donc bien tort de revenir ? Oh, monsieur, non, non, ne me croyez pas ingrate. Seulement vous trouvez une amante, une mère, là où vous aviez laissé une épouse. S'il n'est plus en mon pouvoir de vous aimer, je sais tout ce que je vous dois et puis vous offrir encore toutes les affections d'une fille. Rosine, reprit le vieillard d'une voix douce, je n'ai plus aucun ressentiment contre toi. Nous oublierons tout. Ajouta-t-il avec un de ces sourires dont la grâce est toujours le reflet d'une belle âme. « Je ne suis pas assez peu délicat pour exiger les semblants de l'amour chez une femme qui n'aime plus. » La comtesse lui lança un regard empreint d'une telle reconnaissance que le pauvre Chabert aurait voulu rentrer dans sa fosse dès l'eau. Certains hommes ont une âme assez forte pour de tels dévouements dont la récompense se trouve pour eux dans la certitude d'avoir fait le bonheur d'une personne aimée. « Mon ami, nous parlerons de tout ceci plus tard et à cœur reposé, » dit la comtesse. La conversation prit un autre cours, car il était impossible de la continuer longtemps sur ce sujet. « Quoique les deux époux revinssent souvent à leur situation bizarre, soit par des allusions, soit sérieusement, ils firent un charmant voyage, se rappelant les événements de leur union passée et les choses de l'Empire. La comtesse sut imprimer un charme doux à ses souvenirs et répandit dans la conversation une teinte de mélancolie nécessaire pour y maintenir la gravité. Elle faisait revivre l'amour sans exciter aucun désir et laissait entrevoir à son premier époux toutes les richesses morales qu'elle avait acquises, en tâchant de l'accoutumer à l'idée de restreindre son bonheur aux seules jouissances que goûte un père près d'une fille chérie. Le colonel avait connu la comtesse de l'Empire, il revoyait une comtesse de la Restauration. Enfin, les deux époux arrivèrent par un chemin de traverse à un grand parc situé dans la petite vallée qui sépare les hauteurs de Margency du joli village de Groslay. La comtesse possédait là une délicieuse maison où le colonel vit, en arrivant, tous les apprêts que nécessitait son séjour et celui de sa femme. Le malheur est une espèce de talisman dont la vertu consiste à corroborer notre constitution primitive. Il augmente la défiance et la méchanceté chez certains hommes, comme il accroît la bonté de ceux qui ont un cœur excellent. L'infortune avait rendu le colonel encore plus secourable et meilleur qu'il ne l'avait été, et il pouvait donc s'initier au secret des souffrances féminines qui sont inconnues à la plupart des hommes. Néanmoins, malgré son peu de défiance, il ne put s'empêcher de dire à sa femme « Vous étiez donc bien sûre de m'emmener ici ?»« Oui, répondit-elle, si je trouvais le colonel Chabert dans le plaideur. » L'air de vérité qu'elle sut mettre dans cette réponse dissipa les légers soupçons que le colonel eut honte d'avoir conçus. Pendant 3 jours, la comtesse fut admirable près de son premier mari. Par de tendres soins et par sa constante douceur, elle semblait vouloir effacer le souvenir des souffrances qu'il avait endurées, se faire pardonner les malheurs que, suivant ses aveux, elle avait innocemment causés. Elle se plaisait à déployer pour lui, tout en lui faisant apercevoir une sorte de mélancolie, les charmes auxquels elle le savait faible. Car nous sommes plus particulièrement accessibles à certaines façons, à des grâces de cœur ou d'esprit auxquelles nous ne résistons pas. Elle voulait l'intéresser à sa situation et l'attendrir assez pour s'emparer de son esprit et disposer souverainement de lui. Décidée à tout pour arriver à ses fins, elle ne savait pas encore ce qu'elle devait faire de cet homme, mais certes, elle voulait l'anéantir socialement. Le soir du 3e jour, elle sentit que, malgré ses efforts, elle ne pouvait cacher les inquiétudes que lui causait le résultat de ses manœuvres. Pour se trouver un moment à l'aise, elle monta chez elle, s'assit à son secrétaire, déposa le masque de tranquillité qu'elle conservait devant le comte Chabert, comme une actrice qui, rentrant fatiguée dans sa loge après un 5e acte pénible, tombe demi-morte et laisse dans la salle une image d'elle-même à laquelle elle ne ressemble plus. Elle se mit à finir une lettre commencée qu'elle écrivait à Delbecq, à qui elle disait d'aller, en son nom, demander chez Derville communication des actes qui concernaient le colonel Chabert, de les copier et de venir aussitôt la trouver à Groslay. À peine avait-elle achevé qu'elle entendit dans le corridor le bruit des pas du colonel, qui, tout inquiet, venait la retrouver. « Hélas !» dit-elle à haute voix, « je voudrais être morte, ma situation est intolérable. »« Eh bien, qu'avez-vous donc ?» demanda le bonhomme. « Rien, rien !» dit-elle. Elle se leva, laissa le colonel et descendit pour parler sans témoin à sa femme de chambre, qu'elle fit partir pour Paris en lui recommandant de remettre elle-même à Delbecq la lettre qu'elle venait d'écrire et de la lui rapporter aussitôt qu'il l'aurait lue. Puis la comtesse alla s'asseoir sur un banc où elle était assez en vue pour que le colonel vînt l'y trouver aussitôt qu'il le voudrait. Le colonel, qui cherchait déjà sa femme, accourut et s'assit près d'elle. « Rosine, lui dit-il, qu'avez-vous ? » Elle ne répondit pas. La soirée était une de ces soirées magnifiques et calmes dont les secrètes harmonies répandent, au mois de juin, tant de suavité dans les couchers du soleil. L'air était pur et le silence profond, en sorte que l'on pouvait entendre dans le lointain du parc les voix de quelques enfants qui ajoutaient une sorte de mélodie aux sublimités du paysage. « Vous ne me répondez pas ?» demanda le colonel à sa femme. « Mon mari ?» dit la comtesse qui s'arrêta, fit un mouvement et s'interrompit pour lui demander en rougissant « Comment dirais-je en parlant de monsieur le comte Ferraud ?»« Nomme-le ton mari, ma pauvre enfant, » répondit le colonel avec un accent de bonté. « N'est-ce pas le père de tes enfants ?»« Eh bien, » reprit-elle, « si monsieur me demande ce que je suis venue faire ici, s'il apprend que je m'y suis enfermée avec un inconnu, que lui dirais-je » « Écoutez, monsieur, » reprit-elle en prenant une attitude pleine de dignité, « décidé de mon sort, je suis résignée à tout. »« Ma chère, » dit le colonel en s'emparant des mains de sa femme, « j'ai résolu de me sacrifier entièrement à votre bonheur. »« Cela est impossible, » s'écria-t-elle en laissant échapper un mouvement convulsif. « Songez donc que vous devriez alors renoncer à vous-même d'une manière authentique. »« Comment ?» dit le colonel. « Ma parole ne vous suffit pas ?» Le mot « authentique » tomba sur le cœur du vieillard et y réveilla des défiances involontaires. Il jeta sur sa femme un regard qui la fit rougir, elle baissa les yeux et il eut peur de se trouver obligé de la mépriser. La comtesse craignait d'avoir effarouché la sauvage pudeur, la probité sévère d'un homme dont le caractère généreux, les vertus primitives lui étaient connues. Quoique ses idées eussent répandu quelques nuages sur leur front, la bonne harmonie se rétablit aussitôt entre eux. Voici comment. Un cri d'enfant retentit au loin. « Jules, laissez votre sœur tranquille !» s'écria la comtesse. « Quoi ? Vos enfants sont ici ? » dit le colonel. « Oui, mais je leur ai défendu de vous importuner. » Le vieux soldat comprit la délicatesse, le tact de femme renfermée dans ce procédé si gracieux et prit la main de la comtesse pour la baiser. « Qu'ils viennent donc ? » dit-il. La petite fille accourait pour se plaindre de son frère. « Maman ! Maman ! C'est lui qui ! C'est elle !» Les mains étaient étendues vers la mère et les deux voix enfantines se mêlaient. Ce fut un tableau soudain et délicieux. « Pauvres enfants ! » s'écria la comtesse en ne retenant plus ses larmes. « Il faudra les quitter. À qui le jugement les donnera-t-il ? On ne partage pas un cœur de mère, je les veux, moi. Est-ce vous qui faites pleurer maman ? Dit Jules en jetant un regard de colère au colonel. Taisez-vous, Jules ! S'écria la mère d'un air impérieux. Les deux enfants restèrent debout et silencieux, examinant leur mère et l'étranger avec une curiosité qu'il est impossible d'exprimer par des paroles. Oh oui, reprit-elle, si l'on me sépare du comte, qu'on me laisse les enfants et je serai soumise à tout. Ce fut un mot décisif qui obtint tout le succès qu'elle en avait espéré. « Oui, » s'écria le colonel comme s'il achevait une phrase mentalement commencée, « je dois rentrer sous terre, je me le suis déjà dit. »« Puis-je accepter un tel sacrifice ? » répondit la comtesse. « Si quelques hommes sont morts pour sauver l'honneur de leur maîtresse, ils n'ont donné leur vie qu'une fois. Mais ici, vous donneriez votre vie tous les jours. » Non, non, cela est impossible. S'il ne s'agissait que de votre existence, ce ne serait rien. Mais signer que vous n'êtes pas le colonel Chabert, reconnaître que vous êtes un imposteur, donner votre honneur, connaître un mensonge à toute heure du jour, le dévouement humain ne saurait aller jusque-là. Songez donc. Non, sans mes pauvres enfants, je me serais déjà enfui avec vous au bout du monde. Mais, reprit Chabert, est-ce que je ne puis pas vivre ici dans votre petit pavillon comme un de vos parents ? « Je suis usée comme un canon de rebut, il ne me faut qu'un peu de tabac et le constitutionnel. » La comtesse fondit en larmes. Il y eut entre la comtesse Ferraud et le colonel Chabert un combat de générosité d'où le soldat sortit vainqueur. Un soir, en voyant cette mère au milieu de ses enfants, le soldat fut séduit par les touchantes grâces d'un tableau de famille à la campagne, dans l'ombre et le silence. Il prit la résolution de rester mort et, ne s'effrayant plus de l'authenticité d'un acte, il demanda comment il fallait s'y prendre pour assurer irrévocablement le bonheur de cette famille. « Faites comme vous voudrez, » lui répondit la comtesse. « Je vous déclare que je ne me mêlerai en rien de cette affaire, je ne le dois pas. » Delbecq était arrivé depuis quelques jours et, suivant les instructions verbales de la comtesse, l'intendant avait su gagner la confiance du vieux militaire. Le lendemain matin, donc, le colonel Chabert partit avec l'ancien avoué pour Saint-Leu-Taverny, où Delbecq avait fait préparer chez le notaire un acte conçu en termes si crus que le colonel sortit brusquement de l'étude après en avoir entendu la lecture. « Mille tonnerres, je serai un joli coco, mais je passerai pour un faussaire !» s'écria-t-il. « Monsieur, lui dit Delbecq, je ne vous conseille pas de signer trop vite. À votre place, je tirerai au moins 30 000 livres de rente de ce procès-là, car madame les donnerait. » Après avoir foudroyé ce coquin émérite par le lumineux regard de l'honnête homme indigné, le colonel s'enfuit emporté par 1000 sentiments contraires. Il redevint défiant, s'indigna, se calma tour à tour. Enfin, il entra dans le parc de Groslay par la brèche d'un mur et vint à Palan se reposer et réfléchir à son aise dans un cabinet pratiqué sous un kiosque d'où l'on découvrait le chemin de Saint-Leu. L'allée étant sablée avec cette espèce de terre jaunâtre par laquelle on remplace le gravier de rivière, la comtesse, qui était assise dans le petit salon de cette espèce de pavillon, n'entendit pas le colonel, car elle était trop préoccupée du succès de son affaire pour prêter la moindre attention au léger bruit que fit son mari. Le vieux soldat n'aperçut pas non plus sa femme au-dessus de lui dans le petit pavillon. « Eh bien, monsieur Delbecq, a-t-il signé ?» demanda la comtesse à son intendant qu'elle vit seule sur le chemin par-dessus la haie d'un seau de loup. « Non, madame, je ne sais même pas ce que notre homme est devenu. Le vieux cheval s'est cabré. « Il faudra donc finir par le mettre à Charenton, dit-elle, puisque nous le tenons. » Le colonel, qui retrouva l'élasticité de la jeunesse pour franchir le seau de loup, fut en un clin d'œil devant l'intendant, auquel il appliqua la plus belle paire de soufflets qui jamais ait été reçue sur deux joues de procureur. « Ajoute que les vieux chevaux savent ruer, lui dit-il. » Cette colère dissipée, le colonel ne se sentit plus la force de sauter le fossé. La vérité s'était montrée dans sa nudité. Le mot de la comtesse et la réponse de Delbecq avaient dévoilé le complot dont il allait être la victime. Les soins qui lui avaient été prodigués étaient une amorce pour le prendre dans un piège. Ce mot fut comme une goutte de quelque poison subtil qui détermina chez le vieux soldat le retour de ses douleurs et physiques et morales. Il revint vers le kiosque par la porte du parc en marchant lentement comme un homme affaissé. Donc, ni paix ni trêve pour lui. Dès ce moment, il fallait commencer avec cette femme la guerre odieuse dont lui avait parlé Derville, entrer dans une vie de procès, se nourrir de fiel, boire chaque matin un calice d'amertume. Puis, pensée affreuse, où trouver l'argent nécessaire pour payer les frais des premières instances. Il lui prit un si grand dégoût de la vie que s'il y avait eu de l'eau près de lui, il s'y serait jeté, que s'il avait eu des pistolets, il se serait brûlé la cervelle. Puis il retomba dans l'incertitude d'idées qui, depuis sa conversation avec Derville chez le nourrisseur, avait changé son moral. Enfin arrivé devant le kiosque, il monta dans le cabinet aérien dont les rosaces de verre offraient la vue de chacune des ravissantes perspectives de la vallée et où il trouva sa femme assise sur une chaise. La comtesse examinait le paysage et gardait une contenance pleine de calme en montrant cette impénétrable physionomie que savent prendre les femmes déterminées à tout. Elle s'essuya les yeux comme si elle eût versé des pleurs et joua par un geste distrait avec le long ruban rose de sa ceinture. Néanmoins, malgré son assurance apparente, elle ne put s'empêcher de frissonner en voyant devant elle son vénérable bienfaiteur, debout, les bras croisés, la figure pâle, le front sévère. « Madame, dit-il après l'avoir regardée fixement pendant un moment et l'avoir forcée à rougir, Madame, je ne vous maudis pas, je vous méprise. Maintenant, je remercie le hasard qui nous a désunis. Je ne sens même pas un désir de vengeance, je ne vous aime plus. Je ne veux rien de vous. Vivez tranquille sur la foi de ma parole, elle vaut mieux que les griffonnages de tous les notaires de Paris. Je ne réclamerai jamais le nom que j'ai peut-être illustré. Je ne suis plus qu'un pauvre diable nommé Hyacinthe qui ne demande que sa place au soleil. Adieu. » La comtesse se jeta aux pieds du colonel et voulut le retenir en lui prenant les mains. Mais il la repoussa avec dégoût en lui disant « Ne me touchez pas. » La comtesse fit un geste intraduisible lorsqu'elle entendit le bruit des pas de son mari. Puis, avec la profonde perspicacité que donne une haute scélératesse ou le féroce égoïsme du monde, elle crut pouvoir vivre en paix sur la promesse et le mépris de ce loyal soldat. Chabert disparut en effet. Le nourrisseur fit faillite et devint cocher de cabriolet. Peut-être le colonel s'adonna-t-il d'abord à quelque industrie du même genre. Peut-être, semblable à une pierre lancée dans un gouffre, alla-t-il de cascade en cascade s'abîmer dans cette boue de haillon qui foisonne à travers les rues de Paris. 6 mois après cet événement, Derville, qui n'entendait plus parler ni du colonel Chabert ni de la comtesse Ferraud, pensa qu'il était survenu sans doute entre eux une transaction que, par vengeance, la comtesse avait fait dresser dans une autre étude. Alors, un matin, il supputa les sommes avancées au dit Chabert, y ajouta les frais et pria la comtesse Ferraud de réclamer à monsieur le comte Chabert le montant de ce mémoire, en présumant qu'elle savait où se trouvait son premier mari. Le lendemain même, l'intendant du comte Ferraud, récemment nommé président du tribunal de première instance dans une ville importante, écrivit à Derville ce mot désolant. « Monsieur, madame la comtesse Ferraud me charge de vous prévenir que votre client avait complètement abusé de votre confiance et que l'individu qui disait être le comte Chabert a reconnu avoir indûment pris de fausses qualités. Agréé, etc. Delpech. » On rencontre des gens qui sont aussi, ma parole d'honneur, pas trop bêtes. Ils ont volé le baptême, s'écria Derville. Soyez donc l'humain, généreux, philanthrope avoué, vous vous faites enfoncer. Voilà une affaire qui me coûte plus de 2 billets de 1 000 francs. Quelque temps après la réception de cette lettre, Derville cherchait au palais un avocat auquel il voulait parler et qui plaidait à la police correctionnelle. Le hasard voulut que Derville entrât à la 6e chambre au moment où le président condamnait comme vagabond le nommé Hyacinthe à 2 mois de prison et ordonnait qu'il fût ensuite conduit au dépôt de mendicité de Saint-Denis, sentence qui, d'après la jurisprudence des préfets de police, équivaut à une détention perpétuelle. Au nom d'Hyacinthe, Derville regarda le délinquant assis entre 2 gendarmes sur le banc des prévenus et reconnut, dans la personne du condamné, son faux colonel Chabert. Le vieux soldat était calme, immobile, presque distrait. Malgré ses haillons, malgré la misère empreinte sur sa physionomie, elle déposait d'une noble fierté. Son regard avait une expression de stoïcisme qu'un magistrat n'aurait pas dû méconnaître. Mais, dès qu'un homme tombe entre les mains de la justice, il n'est plus qu'un être moral, une question de droit ou de fait, comme aux yeux des statisticiens, il devient un chiffre. Quand le soldat fut reconduit au greffe pour être emmené plus tard avec la fournée de vagabonds que l'on jugeait en ce moment, Derville usa du droit qu'on les avouait d'entrer partout au palais, l'accompagna au greffe et l'y contempla pendant quelques instants, ainsi que les curieux mendiants parmi lesquels il se trouvait. L'antichambre du greffe offrait alors un de ces spectacles que malheureusement ni les législateurs, ni les philanthropes, ni les peintres, ni les écrivains ne viennent étudier. Comme tous les laboratoires de la chicane, cette antichambre est une pièce obscure et puante, dont les murs sont garnis d'une banquette en bois noirci par le séjour perpétuel des malheureux qui viennent à ce rendez-vous de toutes les misères sociales et auxquelles pas un d'eux ne manque. Un poète dirait que le jour a honte d'éclairer ce terrible égout par lequel passent tant d'infortunes. Il n'est pas une seule place où ne se soit assis quelque crime en germe ou consommé. Pas un seul endroit où ne se soit rencontré quelque homme qui, désespéré par la légère flétrissure que la justice avait imprimée à sa première faute, n'ait commencé une existence au bout de laquelle devait se dresser la guillotine ou détonner le pistolet du suicide. Tous ceux qui tombent sur le pavé de Paris rebondissent contre ces murailles jaunâtres sur lesquelles un philanthrope qui ne serait pas un spéculateur pourrait déchiffrer la justification des nombreux suicides dont se plaignent des écrivains hypocrites, incapables de faire un pas pour les prévenir, et qui se trouvent écrites dans cette antichambre, espèce de préface pour les drames de la morgue ou pour ceux de la place de Grève. En ce moment, le colonel Chabert s'assit au milieu de ces hommes à faces énergiques, vêtus des horribles livrées de la misère, silencieux par intervalles, ou causant à voix basse, car 3 gendarmes de faction se promenaient en faisant retentir leurs sabres sur le plancher. « Me reconnaissez-vous ? » dit Derville au vieux soldat en se plaçant devant lui. « Oui, monsieur, » répondit Chabert en se levant. « Si vous êtes un honnête homme, » reprit Derville à voix basse, « comment avez-vous pu rester mon débiteur ? » Le vieux soldat rougit comme aurait pu le faire une jeune fille accusée par sa mère d'un amour clandestin. « Quoi ? Madame Ferraud ne vous a pas payé ? » s'écria-t-il à haute voix. « Payé ? » dit Derville. « Elle m'a écrit que vous étiez un intrigant. » Le colonel leva les yeux par un sublime mouvement d'horreur et d'imprécation, comme pour en appeler au ciel de cette tromperie nouvelle. « Monsieur, dit-il d'une voix calme à force d'altération, obtenez des gendarmes la faveur de me laisser entrer au greffe, je vais vous signer un mandat qui sera certainement acquitté. » Sur un mot dit par Derville au brigadier, il lui fit permis d'emmener son client dans le greffe, où Hyacinthe écrivit quelques lignes adressées à la comtesse Ferraud. « Envoyez cela chez elle, dit le soldat, et vous serez remboursé de vos frais et de vos avances. Croyez, monsieur, que si je ne vous ai pas témoigné la reconnaissance que je vous dois pour vos bons offices, elle n'en est pas moins là, dit-il en se mettant la main sur le cœur. Oui, elle est là, pleine et entière, mais que peuvent les malheureux? Ils aiment, voilà tout. Comment ? Lui dit Derville. N'avez-vous pas stipulé pour vous quelque rente ? Ne me parlez pas de cela, répondit le vieux militaire. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'où va mon mépris pour cette vie extérieure à laquelle tiennent la plupart des hommes. J'ai subitement été pris d'une maladie, le dégoût de l'humanité. Quand je pense que Napoléon est à Sainte-Hélène, tout ici-bas m'est indifférent. Je ne puis plus être soldat, voilà tout mon malheur. Enfin, ajouta-t-il en faisant un geste plein d'enfantillage, il vaut mieux avoir du luxe dans ses sentiments que sur ses habits. Je ne crains, moi, le mépris de personne. Et le colonel alla se remettre sur son banc. Derville sortit. Quand il revint à son étude, il envoya Godeschal, alors son second clerc, chez la comtesse Ferraud, qui, à la lecture du billet, fit immédiatement payer la somme due à l'avoué du comte Chabert. En 1840, vers la fin du mois de juin, Godeschal, alors avoué, allait à Rye en compagnie de Derville, son prédécesseur. Lorsqu'ils parvinrent à l'avenue qui conduit de la grande route à Bicêtre, ils aperçurent sous un des ormes du chemin un de ces pauvres vieux chenus et cassés qui ont obtenu le bâton de maréchal des mendiants en vivant à Bicêtre comme les femmes indigentes vivent à la Salpêtrière. Cet homme, l'un des 2000 malheureux logés dans l'hospice de la vieillesse, était assis sur une borne et paraissait concentrer toute son intelligence dans une opération bien connue des invalides et qui consiste à faire sécher au soleil le tabac de leurs mouchoirs pour éviter de les blanchir, peut-être. Ce vieillard avait une physionomie attachante. Il était vêtu de cette robe de drap rougeâtre que l'hospice accorde à ses hôtes, espèce de livrée horrible. « Tenez, Derville, » dit Godeschal à son compagnon de voyage, « voyez donc ce vieux. Ne ressemble-t-il pas à ces grotesques qui nous viennent d'Allemagne ? Et cela vit, et cela est heureux, peut-être. » Derville prit son lorgnon, regarda le pauvre, laissa échapper un mouvement de surprise et dit « Ce vieux-là, mon cher, est tout un poème ou, comme disent les romantiques, un drame. As-tu rencontré quelquefois la comtesse Ferraud ?»« Oui, c'est une femme d'esprit et très agréable, mais un peu trop dévote, » dit Godeschal. Ce vieux bicêtrien est son mari légitime, le comte Chabert, l'ancien colonel. Elle l'aura sans doute fait placer là. S'il est dans cet hospice au lieu d'habiter un hôtel, c'est uniquement pour avoir rappelé à la jolie comtesse Ferraud qu'il l'avait prise, comme un fiacre, sur la place. Je me souviens encore du regard de tigre qu'elle lui jeta dans ce moment-là. » Ce début ayant excité la curiosité de Godeschal, Derville lui raconta l'histoire qui précède. Deux jours après, le lundi matin, en revenant à Paris, les deux amis jetèrent un coup d'œil sur Bicêtre, et Derville proposa d'aller voir le colonel Chabert. À moitié chemin de l'avenue, les deux amis trouvèrent assis sur la souche d'un arbre abattu le vieillard qui tenait à la main un bâton et s'amusait à tracer des raies sur le sable. En le regardant attentivement, ils s'aperçurent qu'il venait de déjeuner autre part qu'à l'établissement. « Bonjour, colonel Chabert, » lui dit Derville. « Pas Chabert, pas Chabert, je me nomme Hyacinthe, » répondit le vieillard. « Je ne suis plus un homme, je suis le numéro 164, 7e salle, » ajouta-t-il en regardant Derville avec une anxiété peureuse, avec une crainte de vieillard et d'enfant. « Vous allez voir le condamné à mort, » dit-il après un moment de silence. « Il n'est pas marié, lui, il est bien heureux. » Pauvre homme, dit Godeschal, voulez-vous de l'argent pour acheter du tabac ? Avec toute la naïveté d'un gamin de Paris, le colonel tendit avidement la main à chacun des deux inconnus qui lui donnèrent une pièce de 20 francs. Il les remercia par un regard stupide en disant « Brave troupier !» Il se mit au port d'armes, feignit de les coucher en joue, et s'écria en souriant « Feu des deux pièces ! Vive Napoléon !» Et il décrivit en l'air avec sa canne une arabesque imaginaire. « Le genre de sa blessure l'aura fait tomber en enfance, » dit Derville. « Lui en enfance ?» s'écria un vieux bicêtrien qui les regardait. « Ah, il y a des jours où il ne faut pas lui marcher sur le pied. C'est un vieux malin plein de philosophie et d'imagination. Mais aujourd'hui, que voulez-vous ? Il a fait le lundi. Monsieur, en 1820, il était déjà ici. Pour lors, un officier prussien, dont la calèche montait la côte de Villejuif, vint à passer à pied. Nous étions, nous deux, Hyacinthe et moi, sur le bord de la route. Cet officier causait en marchant avec un autre, avec un russe ou quelque animal de la même espèce, lorsqu'en voyant l'ancien, le prussien, histoire de blaguer, lui dit « Voilà un vieux voltigeur qui devait être à Rosbach. »« J'étais trop jeune pour y être, » lui répondit-il, « mais j'ai été assez vieux pour me trouver à Iéna. » Pour lors, le prussien a filé, sans faire d'autres questions. « Quelle destinée !» s'écria Derville. Sorti de l'hospice des enfants trouvés, il revient mourir à l'hospice de la vieillesse, après avoir, dans l'intervalle, aidé Napoléon à conquérir l'Égypte et l'Europe. « Savez-vous, mon cher, reprit Derville après une pause, qu'il existe dans notre société trois hommes, le prêtre, le médecin et l'homme de justice, qui ne peuvent pas estimer le monde ? Ils ont des robes noires, peut-être parce qu'ils portent le deuil de toutes les vertus, de toutes les illusions. Le plus malheureux des trois est l'avoué. Quand l'homme vient trouver le prêtre, il arrive poussé par le repentir, par le remords, par des croyances qui le rendent intéressant, qui le grandissent et consolent l'âme du médiateur, dont la tâche ne va pas sans une sorte de jouissance. Il purifie, il répare et réconcilie. Mais nous autres avoués, nous voyons se répéter les mêmes sentiments mauvais. Rien ne les corrige, nos études sont des égouts qu'on ne peut pas curer. Combien de choses n'ai-je pas apprises en exerçant ma charge ? J'ai vu mourir un père dans un grenier, sans sou ni maille, abandonné par deux filles auxquelles il avait donné 40 000 livres de rente. J'ai vu brûler des testaments. J'ai vu des mères dépouillant leurs enfants, des maris volant leurs femmes, des femmes tuant leurs maris en se servant de l'amour qu'elles leur inspiraient pour les rendre fous ou imbéciles afin de vivre en paix avec un amant. J'ai vu des femmes donnant à l'enfant d'un premier lit des goûts qui devaient amener sa mort afin d'enrichir l'enfant de l'amour. Je ne puis vous dire tout ce que j'ai vu, car j'ai vu des crimes contre lesquels la justice est impuissante. Enfin, toutes les horreurs que les romanciers croient inventer sont toujours au-dessous de la vérité. Vous allez connaître ces jolies choses-là, vous. Moi, je vais vivre à la campagne avec ma femme. Paris me fait horreur. « J'en ai déjà bien vu chez Desroches, » répondit Godeschal.